Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Parole de Pro, dans lequel je reçois Maître Caroline Troudard, avocat au barreau de Lille, qui s'occupe exclusivement de droits de la famille. Cet épisode a été enregistré dans le cadre de la sortie de l'épisode 75, dans lequel Océane, du conte I Nant You, nous parle de son expérience de mère ayant mis en place une résidence alternée suite à son divorce. Caroline Troudard nous explique toutes les démarches et toutes les actions à mener lors d'une séparation ou d'un divorce qui implique une question de garde d'enfant. Modalités de résidence, différences entre couples mariés ou non, démarches amiables ou conflictuelles, Caroline donne des pistes qui, je l'espère, t'éclaireront. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Caroline.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café dans cet épisode un peu spécial puisqu'on est sur un bonus parole de pro. Aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur un sujet qui a été abordé dans l'épisode de mardi, donc qui est l'épisode 75 avec Océane qui nous raconte son aventure de maternité et de garde partagée avec ses enfants puisqu'elle est séparée du papa de ses enfants. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es ?
Oui, alors je m'appelle Caroline Troudard, je suis avocate depuis 2009, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, et je pratique exclusivement le droit de la famille. Donc je ne fais aucune autre matière, et voilà, c'était pour ça que je voulais être avocate. Et donc voilà, c'est vraiment, je gère au quotidien des personnes qui se séparent, mariées ou pas. Et puis on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour qu'ils puissent avoir la nouvelle étape de leur vie.
Et c'est justement ces sujets-là qu'on va aborder aujourd'hui, parce que une histoire d'amour c'est beau, c'est chouette, mais parfois ça se termine. Parfois on fait des enfants avec quelqu'un avec qui on est hyper amoureux et puis ça se termine et il faut trouver des solutions parce que se séparer quand on n'a pas d'enfant c'est une chose mais se séparer quand on en a c'est autre chose. On va parler de séparation, donc de divorce, qu'on soit marié ou pas parce que les règles sont différentes. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose à faire quand on se sépare de son conjoint ou de son mari et qu'on a des enfants ?
Alors, la première chose à savoir, avant même de savoir quoi faire, c'est que, heureusement, à aujourd'hui, les règles qui s'appliquent pour l'organisation de la vie des enfants, quand les parents se séparent, ça va être exactement les mêmes règles que les parents soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés. Après, les modalités de mise en œuvre sont différentes, mais par contre, ce qu'on doit prévoir pour les enfants, c'est la même trame, c'est les mêmes bases, et on va raisonner de la même manière, sachant qu'en droit français, cœur de la discussion, c'est l'intérêt des enfants. C'est vraiment autour de ça qu'il faut réfléchir pour faire en sorte que la séparation se passe le mieux possible pour les enfants et qu'on trouve les solutions qui sont les plus adaptées pour eux.
D'accord. Alors, est-ce qu'on est obligé de prendre un avocat déjà ?
Alors, il n'y a pas d'obligation de prendre un avocat quand on n'a pas été marié. En fait, quand on a été marié, les mesures, l'organisation pour la vie des enfants, ça se passe par le biais du divorce. Et dans le cadre du divorce, là, pour le coup, l'avocat est obligatoire et c'est chacun son avocat. Je le précise parce qu'avant, quand on était d'accord sur tout, on pouvait prendre un seul et même avocat. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, c'est vraiment chacun son avocat. En revanche, quand les parents ne sont pas mariés, n'ont pas été mariés, la présence de l'avocat et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Maintenant, on a un peu tous on a tous notre vie, tous nos forces et nos connaissances. Et donc, l'intérêt d'aller voir un avocat, c'est aussi qu'on va pouvoir aider, savoir ce qu'il faut prévoir, anticiper au maximum. Et puis, c'est pas parce qu'on va voir un avocat que c'est la guerre. Et à partir du moment où on va voir un avocat, c'est juste qu'on va vous informer on va informer chaque parent sur ses droits et comment on peut mettre en place les choses pour que tout soit prévu et que tout se passe au mieux.
Ok. Est-ce que le couple parental peut décider de lui-même, sans passer par une procédure quelconque, de ce qu'il veut faire en fait avec les enfants de leur dispositif de garde ?
Alors, c'est en cas de divorce, il y aura forcément un jugement ou une convention en cas d'accord. Quand les parents n'ont pas été mariés, on n'est pas obligé de faire homologuer par un juge les termes de l'accord. Si les parents sont d'accord, ils peuvent décider de fonctionner sans décision de justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parent a les mêmes droits sur l'enfant. Ce qui veut donc dire que s'il n'y a pas de décision de justice qui fixe les choses, tant que tout va bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais si un jour il y a une difficulté entre les parents, il n'y aura aucun cadre, aucune règle posée auquel se rattacher. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'explique souvent à mes clients, c'est qu'au contraire, il faut partir du moment où tout se passe bien et où la discussion est là et où les parents sont en capacité de communiquer pour trouver ensemble la solution pour leurs enfants. C'est là où il faut se saisir de ça pour mettre à plat les bases de l'accord et de le faire homologuer. Comme ça, si un jour il n'y a plus de communication pour X ou Y raison, il y a une base, il y a une décision de justice qui fixe les droits de chacun et qui protège chacun des parents.
Ok. Et quelles sont les différentes modalités pour la garde des enfants ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place ?
Alors, il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs choses, les différents sujets qu'il faut voir pour les enfants. Le premier, on n'y pense pas forcément, mais c'est l'autorité parentale conjointe. L'autorité parentale conjointe, ça veut dire que les parents vont prendre ensemble toutes les décisions importantes de la vie de l'enfant. Donc que ce soit le lieu de scolarisation, un traitement médical, toutes ces décisions-là, ils doivent les prendre ensemble. L'autorité parentale, elle est conjointe si les deux parents ont reconnu l'enfant dans l'année de la naissance. Et ça, c'est inscrit dans toute première décision de justice ou dans toute première convention, on rappelle cette règle qui est importante et qui va s'appliquer même si la résidence habituelle de l'enfant, elle est chez l'un des parents. Donc ça, après, c'est la deuxième chose, c'est le lieu de résidence de l'enfant. Soit on est sur un système de résidence alternée. Dans une résidence alternée, l'idée, c'est que les enfants vont passer autant de temps chez les deux parents. Okay. En termes de rythme, si on est à l'amiable, on peut un peu faire ce qu'on veut. L'idée, c'est justement, à l'amiable, dans une convention, de pouvoir faire du sur-mesure. Classiquement, la résidence alternée, ce qu'on entend le plus souvent, c'est une semaine. Et dans une convention, quand vous êtes avec un avocat, on va aller même dans le détail de savoir quel jour on fait le changement de résidence, est-ce qu'on maintient cette organisation pour les vacances, etc. Okay. Ça, c'est la résidence alternée, mais ça peut aussi être 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre, et puis après on alterne les week-ends. Il y a plein de solutions possibles sur la résidence alternée, mais l'idée de la résidence alternée, c'est autant de temps chez papa que chez maman.
D'accord.
Et si on n'est pas sur un système de résidence alternée, c'est la résidence habituelle chez l'un des parents, avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent, qui peut être plus ou moins élargi. Ça peut être ce qu'on entend souvent en droit de visite et d'hébergement classique, c'est un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mais ça peut être faire commencer le droit de visite plus tôt que le vendredi, ou le faire terminer plus tard, ou rajouter des jours en milieu de semaine. Enfin, voilà, c'est vraiment le droit de visite et d'hébergement. C'est le droit, la période pendant laquelle le parent qui n'a pas l'enfant chez lui le reste de la semaine va pouvoir voir l'enfant.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le terme droit de visite et d'hébergement, c'est un petit peu perturbant. On se dit qu'on va aller voir l'enfant chez l'autre parent. Alors, c'est parfois des modalités qu'un juge décide, mais en fait, droit de visite et d'hébergement, ça veut dire qu'on va chercher l'enfant, qu'on passe du temps avec lui, à son domicile, en vacances, etc., et on le ramène à l'issue du droit de visite.
D'accord.
Et la dernière chose, c'est la prise en charge financière des enfants. Alors, si on est en résidence alternée, ce qu'on entend souvent, c'est s'il y a une résidence alternée, il n'y a pas de pension alimentaire. Pas forcément. La prise en charge financière des enfants, l'idée, c'est on va regarder les situations financières des deux parents et on va voir ce qu'on peut mettre en place pour que les enfants aient le même train de vie chez l'un des parents et chez l'autre parent.
D'accord.
S'il y a une grosse différence de train de vie, il peut y avoir une pension alimentaire. On peut aussi partager des frais de manière autre que 50-50. Et par contre, si on est en résidence habituelle chez l'un des parents, là, on va fixer une pension alimentaire à la charge du parent qui n'a pas l'enfant à son domicile la majorité du temps.
D'accord. Quand on est en droit de visite et d'hébergement, ouais, est-ce que l'autorité parentale est toujours conjointe ?
Oui. L'autorité parentale, en fait, elle est toujours conjointe. Enfin, dans la majorité des cas, elle est conjointe. Elle est conjointe, ce qu'on appelle de plein droit, si les deux parents ont reconnu l'enfant dans la première année de sa vie.
D'accord.
Si l'un des parents n'a pas reconnu l'enfant dans cette première année, le juge aux affaires familiales, il peut décider d'octroyer l'autorité parentale à l'autre parent en fonction des circonstances. Mais ça, c'est vraiment quel que soit le lieu de résidence. Donc, c'est ce qu'on explique assez souvent. C'est-à-dire que même si, par exemple, l'un des parents a la résidence à son domicile, c'est pas pour autant que ce parent-là a le droit de décider de manière unilatérale dans quelle école il va inscrire l'enfant, ou s'il y a un traitement médical à mettre en place sur le long terme. terme, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est les deux parents ont cette autorité parentale et il faut qu'ils continuent à prendre ensemble les décisions importantes de la vie de leur enfant.
Quelles sont les éventuelles raisons pour lesquelles un parent pourrait perdre l'autorité parentale ?
Alors, ça peut être si un parent se désintéresse manifestement de l'enfant pendant une longue durée. En fait, l'autorité parentale, le juge peut décider aussi de la retirer quand on se rend compte que le fait que cette autorité parentale soit conjointe, ça pose des problèmes dans la gestion de l'enfant. Par exemple, on bloque un truc tout bête, un enfant doit se faire opérer des dents de sagesse. Si on n'arrive pas à joindre l'autre parent parce qu'il est complètement absent de la vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut soit autoriser ponctuellement l'autre parent à prendre seul une décision. Et il peut, dans certains cas, alors c'est quand même assez rare, il peut décider de retirer l'autorité parentale.
D'accord.
Après, ça, c'est hors volet pénal.
Ouais.
Là, ça sort un peu de mon champ de
compétences. Champ de compétences, ouais. Comment on fait pour changer ? Je te pose la question parce que dans l'épisode, justement, qui est sorti mardi, en fait, au départ, ils avaient une décision parce que les enfants étaient petits, donc du coup, et que l'un d'entre eux était allaité. Donc, ils avaient mis en place justement un système de garde alternée qui correspondait à ce mode de vie-là. Sauf que, après, les enfants ont grandi et ils ont changé. Comment on fait pour pouvoir changer quand il y a eu un jugement, par exemple, quand c'est bien défini
Alors, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, les parents sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont mis en place, ça a évolué parce que les enfants ont grandi ou parce qu'il y a eu des déménagements, des choses comme ça. Et si les parents sont d'accord, ils peuvent saisir ce qu'on appelle conjointement, c'est-à-dire qu'ils saisissent le juge ensemble et ils demandent au juge d'acter le nouvel accord qu'ils ont trouvé entre eux.
D'accord.
Si par contre, y a l'un des parents qui estime que l'organisation mise en place n'est plus conforme à l'intérêt de l'enfant, ou s'il y a un des parents qui déménage ou ce genre de choses, eh bien dans ce cas-là, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander une modification des mesures qui ont été faites. Mais il faut qu'il y ait un changement dans la situation, ou alors que les deux parents soient d'accord pour modifier l'organisation préalablement établie.
Okay. Et est-ce qu'on peut anticiper ce genre de choses avant d'être séparés, tu vois, dans un contrat de mariage, par exemple ?
Alors, l'objet du contrat de mariage, c'est très spécifique en France, c'est vraiment juste de gérer l'aspect patrimonial.
D'accord.
Des rapports entre les époux. On choisit son régime matrimonial par le contrat de mariage. Donc, on ne peut pas anticiper dans le contrat de mariage vraiment les modalités de résidence. Aussi parce que ce qui doit guider au moment du choix des modalités de résidence, c'est l'intérêt de l'enfant à l'instant où on se pose la question. Donc on peut se dire, pendant la vie de couple, comme tout couple, on peut se dire, si un jour on se sépare, on voudrait plutôt une résidence alternée, mais c'est vraiment au moment où la séparation est effective que se pose la question des modalités de résidence.
D'accord. Tu nous disais que le cadre légal est obligatoire quand on est marié, parce qu'il y a le divorce. Quand on n'est pas marié, comment ça se passe si on veut faire un cadre légal ?
Alors, si on n'est pas marié et que tout se passe bien, c'est-à-dire que les parents sont d'accord, ils peuvent aller voir un seul avocat. C'est le seul cas où on peut prendre un seul avocat.
Ouais.
Ils sont d'accord. Ils vont voir un avocat qui va rédiger une requête conjointe avec une convention qui reprend bien tous les termes de leur accord. Et ils demandent au juge d'homologuer cet accord. Sinon, ils peuvent chacun aller voir un avocat. Et ils discutent avec leurs avocats de ce qu'ils souhaitent et les avocats mettent en forme les termes de leur accord. Ça, c'est quand ils sont d'accord et qu'ils ont trouvé la solution seuls ou à l'aide d'un médiateur familial éventuellement.
Okay. Alors là, on parlait justement de tout. Quand tout va bien, quand on se sépare mais qu'on a l'intérêt de l'enfant en commun et qu'on est sur la même longueur d'onde, quand c'est pas le cas, quand on n'est pas d'accord avec l'un avec l'autre, les deux parents sont pas d'accord, comment ça se passe ?
Alors, dans ce cas-là, la première démarche, c'est effectivement d'aller voir un avocat pour savoir quels sont les droits, donc comment on organise, à quoi on doit penser, etc., pour mettre en place les choses. Après, si malgré discussion, malgré échange, vraiment le désaccord persiste et que les parents restent en opposition sur les modalités de résidence, dans ce cas-là, le parent, ce qu'on dit le plus diligent, donc le premier, peut saisir le juge aux affaires familiales, donc encore une fois, avec ou sans avocat. Mais il faut saisir le juge aux affaires familiales, chacun fait ses demandes, et le juge aux affaires familiales rendra une décision sur l'ensemble des points que j'ai évoqués tout à l'heure, en prenant comme point de référence l'intérêt de l'enfant. Donc ce qu'il estime, lui, en tant que juge, être le plus conforme à l'intérêt de l'enfant dont on lui soumet la situation.
Et une fois cette décision prise par le juge, donc, est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce qu'il y a un moyen que
Alors,
ça change?
La décision, elle est susceptible d'appel. Ça, c'est la première chose. Après, on peut revenir dessus s'il y a un changement dans la situation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à situation équivalente, les mesures vont rester les mêmes. Par contre, s'il y a un changement dans la situation d'un parent, de l'autre ou de l'enfant, on peut faire évoluer les mesures.
Et tu fais bien de parler de l'enfant parce que ça me donne une question. À partir de quand, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a un âge, l'enfant peut décider de lui-même de ce qu'il souhaite?
Alors, dans le Code civil, ce qui est prévu, c'est que quand l'enfant a un discernement suffisant, il peut demander à être entendu devant le juge. Alors, ça dépend des juridictions, ça dépend des enfants, mais en pratique, c'est à peu près vers 9-10 ans où l'enfant peut être entendu. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant va décider.
D'accord.
L'enfant, il s'exprime et après, le juge rendra la décision en prenant en compte ce que l'enfant a exprimé comme souhait. Mais les enfants ne décident pas parce qu'on ne veut pas faire peser non plus sur leurs épaules le choix d'aller chez papa ou chez maman. Mais ils ont le droit de s'exprimer et de donner leur avis sur la procédure dont ils font l'objet. Ouais.
Et même si, parce que là on parle d'enfants de 9-10 ans, mais quand on est adolescent, quand on a 16-17 ans, où là vraiment on est proche de l'âge adulte, à ce moment-là, c'est pas non plus l'enfant qui peut prendre cette décision.
Dans le texte, l'enfant ne décide pas. Maintenant, il est sûr que le juge va... Après, il faudrait demander un juge aux affaires familiales, mais forcément, la parole d'un enfant de 16-17 ans ne va pas être traitée de la même manière qu'un enfant de 9-10 ans.
Ouais.
Mais dans les textes, ce n'est pas un enfant qui décide, même à 16-17 ans. Maintenant, c'est qu'à 16-17 ans, ils sont quand même grands. Donc après, on adapte aussi les mesures en fonction de l'âge des enfants.
Oui, complètement. Ok, super. Bah, écoute, merci Caroline pour tous ces éclaircissements. Je pense qu'ils vont être précieux pour les personnes qui seraient confrontées à cette situation, parce que c'est vrai que c'est chouette quand on s'aime, mais ça peut aussi être chouette, entre guillemets, quand on sépare. Enfin, en tout cas, on peut faire les choses proprement. Et je pense que grâce à tes indications et à tes précisions, ça pourra aider beaucoup de personnes.
Eh bien, avec plaisir. Et voilà, juste, il faut essayer de savoir que quand vous allez voir un avocat, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est juste être informé sur vos droits et préserver les droits des deux parents. C'est important, et de laisser l'enfant à sa place d'enfant, mais de savoir que c'est son intérêt qu'il faut protéger avant tout dans une séparation.
Complètement, et puis je pense qu'en plus, mettre une personne extérieure justement permet de sortir justement de tout ce qui a trait au sentiment et à quelque chose qui ne serait pas objectif, justement, parce que... Peu importe la raison qui nous pousse à nous séparer de l'autre parent, parfois ça peut créer des rancœurs et nous aveugler sur certaines choses, et une personne extérieure peut avoir un effet médiateur finalement.
Exactement.
Ah, super. Bon, merci beaucoup.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 22 décembre, Lily Max Juju écrivait « Ce podcast est vraiment génial, enrichissant, les thèmes abordés sont variés, bref, je recommande plus plus. » À chaque épisode, c'est ma petite parenthèse. Merci Lily Max Juju pour tes mots, je suis hyper touchée. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi, ce sera génialissime aussi et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.